dernière question. Par rapport au personnage de Christian Dior, c'est quand même étonnant. Il est décédé très très jeune, il avait 52 ans. C'est incroyable qu'il ait eu 10 ans pour créer cet univers, je veux dire, qui a eu toute une suite jusqu'à aujourd'hui, qui faisait et qui fait toujours rêver les gens. Et en même temps, il semble être un personnage très secret, très presque un peu effacé. Ça m'étonne, parce que c'est comme s'il y avait un contraste entre ce personnage-là et ce qu'il a créé.
Moi, je crois que les grands créateurs, ils sont comme ça. Vous savez, je me souviens une fois d'une... puisque nous sommes à Hambourg, je sais que c'est une ville qui est chère à son cœur, une fois une interview comme ça de Karl Lagerfeld, on disait « mais vous sortez beaucoup, etc. » Et Karl Lagerfeld, « je passe ma vie à lire. » Quand on passe sa vie à lire, on ne sort pas, et il a raison. C'est un homme d'une immense culture. Sa culture, il ne la découvre pas en regardant son iPhone ou en regardant la télévision. C'est quelqu'un qui a lu, qui a passé du temps à regarder des livres, etc. Donc ce temps-là, c'est un temps qui est très secret. Ce temps dont on ne parle pas et qui pourtant est la base de tout. Saint-Laurent, il y a eu des années éclatantes avec des frasques, etc. Puis il y avait aussi toute la phase qui n'était pas très connue, dès ses séjours à Marrakech ou à Tanger, préparant ses collections, ou pas d'ailleurs, ou les rêvant. Se laissant aller à la rêverie, à la réflexion. Je crois que dans le cas de Christian Dior, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a lui-même tout résumé dans le titre de son autobiographie. Christian Dior et moi. C'est que lui-même, sans être schizophrène, a tout de suite fait, je dirais, un distinguo entre Christian Dior, la personnalité publique, et très vite, la maison et la marque, et Christian Dior, le personnage privé, l'ami qu'il était, le frère, l'oncle, le parrain, qui apparaît comme un être toujours divin, exquis, timide, effacé, avec un grand sens, nos amis anglais diraient, de privacy, vraiment de très à distance des choses. Et c'est intéressant parce que c'est un cas, je ne suis pas sûr que ce soit un cas si rare, mais c'est un cas très enlevé. Paul Poiret, on sait beaucoup de choses de sa vie. Coco Chanel, on sait beaucoup de choses de sa vie. On le sait aussi parce qu'il y a un laps de temps historique qui fait qu'on le sait à travers le prisme de recherche historique. Peut-être que leurs contemporains ne savaient pas autant de choses que ça d'eux. Je pense que d'un point de vue contemporain, Christian Dior, on n'en voyait que l'écume. C'est après qu'on a vu les photos, enfin, de son vivant, on a photographié ses maisons, etc. Mais c'est après qu'on reconstitue ce qui fait l'unité d'une vie, in fine. C'est vrai que c'est frappant en même temps de voir que cet homme très effacé, très calme, très posé, très égal d'humeur. C'est pas Coco Chanel, connu pour ses colères, ses accès quelquefois de dureté. On rappelle quand même Coco Chanel, quelques années après sa mort, les dames de l'atelier passant devant sa porte baissaient la voix. Alors qu'elle était morte. On n'a pas du tout ce sentiment-là avec Christian Dior. Et c'est vrai qu'en plus, on l'a d'autant moins qu'on voit l'empire. Quasiment, qu'en 10 ans, Christian Dior a construit, ce qu'à posteriori, il laisse entendre le choc qu'a été le succès du New Look et de cette montée en puissance d'une maison de couture toute jeune, parce que la même année, il sort le premier parfum et très vite, il se dit mais la cosmétique, les accessoires, les sacs, l'art de vivre, les objets pour la maison, etc., etc., font partie d'un tout. Et cette vision qu'il avait d'ailleurs d'une globalité dans la création autour de la mode, il avait aussi en écho dans la globalité qu'il avait de son travail de créateur comme une industrie et comme une création globale à l'échelle du globe. De son vivant, on voit déjà la maison Dior un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde. Donc c'est assez en effet étonnant toujours de voir ce distinguo entre un homme très secret dont certaines parties de sa vie étaient très, très effacées, très distantes. Souvent, il est homosexuel. C'était une époque où il y avait beaucoup d'homosexuels à Paris, mais qui est resté très secret pour des raisons sociales, morales, familiales par rapport à leur vie privée. Je ne suis pas sûr que ce soit l'élément, mais c'est vrai qu'entre le personnage qui déteste sortir, aime bien dans son jardin, et celui qui va conquérir le monde en 10 ans, le fossé est absolument colossal. Moi, je retiens toujours ça, cette image que vous connaissez sans doute de la nomination de Saint-Laurent sur le balcon de l'avenue Montaigne. Et on voit l'avenue Montaigne noire de monde qui acclame le petit prince de la mode. C'est saisissant parce que c'est Yves Saint-Laurent et qu'on sait l'histoire a posteriori d'Yves Saint-Laurent. Et on sait, c'est un tout jeune homme qui se retrouve avec sa responsabilité. Mais il faut prendre les choses aussi à l'envers. C'est que le monde entier connaît à l'époque la maison Christian Dior, que c'est la maison de mode la plus puissante. Elle représente même un chiffre d'exportation pour la France colossal. Et ce jour-là, c'est pas tant le petit prince de la mode qu'on célèbre que la succession à la tête d'une des affaires de mode les plus importantes au monde. Vous voyez, c'est pas que la légende du petit du jeune couturier qui va devenir l'autre monstre sacré de la génération suivante, on va dire, mais c'est aussi de montrer le poids qu'avait au 10 ans occupé cette maison. Il y a beaucoup de maisons qui ont changé de directeur entre-temps et j'en ai entendu parler. Et là, à la mort de Christian Dior, qui est un événement mondial et un deuil national, son successeur prend un rang qu'aucun créateur de mode n'avait pris auparavant.
Merci.
Merci à vous.